elle a avalé aujourd'hui.
Demain, c'est la Saint-Valentin.
Mais demain,
au
ça va être sucré.
Chose,
oui, c'est ça. Je ne sais pas si toi, tu as des plans pour la Saint-Valentin, là.
Non, mon copain, il est à distance.
Écoute, je te souhaite une bonne Saint-Valentin à distance et je vous souhaite plein d'amour, plein de chaleur
et plein
de douceur.
D'amour.
On vous aime fort, fort, fort. Vous êtes tous des êtres humains très valides qui méritent tous, à quelque part, de l'amour et
Exactement.
De la compassion. Passez une excellente journée et on se revoit la semaine prochaine pour les affamés.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Bienvenue à Écoute Locale, les entrevues, édition du lundi 13 février. Je m'appelle Émilie Rioux et durant 60 minutes, on s'entretient avec un artiste musical de la ville de Québec. Et aujourd'hui, live en studio, j'ai le plaisir de recevoir le seul, l'unique, Pierre-Hervé Goulet. Wow! La foule est en délire. Salut Pierre-Hervé!
Allô Émilie!
On est de retour, on se retrouve, ce sont les retrouvailles.
Toujours, toujours les retrouvailles annuelles, hein, toutes les années.
On trouve au moins une case horaire pour essayer de se jaser. Je parle de retrouvailles parce qu'évidemment, pendant que j'animais Chérie J'arrive, dans la décennie où j'animais Chérie J'arrive, on s'est croisés à moult reprises, que ce soit en lancement d'album ou juste pour venir faire des tunes, pour faire la promo d'un show, t'es passé plus souvent qu'autrement dans ce studio.
Ouais, oui, quand même, à la Ninkasi aussi,
oui.
À un moment donné, c'était là que ça se passait.
Ouais, oui, c'est vrai, j'avais des émissions à Ninkasi. T'étais venu faire une petite performance live aussi à la Ninkasi, c'est vrai, à ton premier album, je me souviens.
Premier album, aïe, fait que 2016-17.
Ouais, la pochette, tout ce qui est, t'as juste des cheveux.
Oui, mais encore aujourd'hui, c'est ma seule qualité.
Oui.
J'avais bien visé.
Voilà, bien facile à reconnaître cette pochette et cette chevelure. Donc ensemble, on va passer 60 minutes à jaser musique. Je pense qu'on devrait bien s'en sortir, mais on va commencer par le commencement. Pierre-Hervé, dis-moi, t'es originaire de où?
Beauceville.
OK.
Fait que je suis beauceron. fait que tous les gens à Beauceville naissent dans la rivière Chaudière, puis un jour émergent à la surface, oui. Fait que je suis né à Beauceville, j'ai grandi là. Puis à un moment donné, à 18 ans, je suis parti.
Beauceville, c'est comme un village, pas une ville, en fait. C'est une ville?
C'est comme entre le village puis la ville. OK. Tu sais, fait que c'est pas clair. Je pense que c'est pas clair pour personne. Je pense qu'on pense que c'est une ville.
À cause du nom.
Oui, c'est ça. La ville la plus importante de la Beauce.
Voilà, la capitale de la Beauce.
La capitale de la Beauce.
T'es resté là combien de temps?
Jusqu'à 18 ans. Après ça, je suis parti vivre mon rock. Là.
Ouais.
Puis l'année d'après, à l'école de la chanson de Grimbay pour perfectionner les outils, la compréhension de l'écriture de chansons.
Okay. Fait que t'as quitté le patelin dans le but d'avoir une carrière ou en tout cas d'apprendre d'aller à l'école. Puis de... C'est un petit peu ça qui a motivé ton départ.
Oui, c'est ça. Puis tu sais, j'ai écrit ma première tune à 10 ans, tu sais, puis j'ai commencé à faire des shows vers 11-12 avec mes compos. Fait que tu sais, j'ai toujours fait ça. Fait que pour moi, c'était naturel aussi... à m'amener de vouloir aller rejoindre d'autres gens que mes voisins qui m'aiment là, mais
à un moment donné, il avait fait le tour.
Oui, c'est ça.
donc hey, les premiers shows à 11-12 ans, c'est quand même, on va dire, dans la moyenne assez tôt là.
Oui, oui, je pense que je suis dans la moyenne tôt.
T'es un précoce.
Oui, exactement. On me le dit tout le temps.
Ben oui, mais ça fait en sorte que bon, tu savais donc jouer de la musique, t'as pris ça où finalement là de savoir ton instinct musical, jouer de la musique, tout ça, qui t'a appris? Ça?
Ben c'est très 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 instinctif, okay. Je pense, parce que je suis pas né dans une famille de musiciens, mais mon grand-père jouait de l'harmonica, puis quand il en jouait, même petit bébé à 4-5 mois, ma grand-mère, à toutes les fois qu'on se voit, elle me le rappelle, tu sais, que à genre c'est ça là, 4 mois, j'étais dans mon berceau. Sont-tu dans un berceau à cet âge-là?
Je sais pas,
j'ai pas d'enfant, fait que je le sais pas, mais vraiment jeune, tu sais, mon grand-père jouait de l'harmonica, dans le berceau.
Dans le berceau.
Je m'étais levé debout. Puis tu sais, je marchais pas, mais tu sais, je m'étais levé debout pour écouter l'harmonica. Fait que je pense que pour moi, c'était ça m'a frappé tout de suite. Puis après, ben appris à jouer de la guitare à 8 ans, comme quasiment tous les enfants, tu sais, qui ont passé par là.
Mais moi, les enfants ont appris à jouer de la guitare à 8 ans.
Voyons. Tu sais, les parents qui disent bon, ben on va essayer. Tu sais, cette avenue-là, voir si ça connecte à quelque part en dedans de lui ou elle.
Te souviens-tu si c'est toi qui avais demandé à avoir une guitare ou si c'est tes parents qui te l'ont offert?
Je pense que c'est mes parents qui me l'ont offert. Mais j'avais quand même la petite fibre, là, à quelque part, je pense qu'il avait vu ou peut-être que j'avais insisté, je m'en souviens plus. Puis là, ben, écoute, j'ai commencé à écrire des tunes à 10 ans, puis ça n'a jamais arrêté. Ma première tune parle d'un petit cheval.
Ah ouais?
Qui galopait sur la plage de l'amitié.
Ah, oh, c'est beau!
Oui, oui.
Déjà, vraiment la plume poétique.
Oui, vraiment, les grosses métaphores.
Ben oui, exact. Mais c'est ça. Ben, donc, on comprend que tu étais peut-être un peu autodidacte. Sur la guitare, y a-tu des profs de guitare à Beauceville?
Oui, il y en a un, c'est lui que j'ai eu. Il y en avait un, en fait, dans le temps principal, puis c'est lui qui m'a appris les bases classiques. Okay. J'ai commencé à la guitare classique, puis à un moment donné, ben, j'étais pas très discipliné.
Ben, t'as 8 ans, c'est normal.
Oui, oui, mais tu sais, disons que même à comparer les autres de 8 ans, j'étais peut-être pas le plus discipliné, fait que je pense qu'à un moment donné, pour me sauver, mes parents ont demandé à que j'apprenne les accords de base, tu sais, puis aussitôt que j'ai connu le mi mineur puis là, j'étais parti.
Ouais. Mais c'est plus évident d'imaginer une chanson quand t'as des accords que quand tu fais des gammes classiques. Quand même sur la guitare classique, qui est pas évident là. Faut se situer là, quand même. C'était une toute petite guitare. La guitare classique, le style classique, ça demande des grands écarts de doigts, puis de mains, puis beaucoup de dextérité là. C'est technique.
Oui, oui, vraiment. Puis beaucoup d'investissement, puis de pratique. Ouais. Fait que là, tout le monde était meilleur que moi dans les élèves. T'sais, j'étais comme le mouton noir de la gang là, qui, tu sais.
Un bum de 8 ans là.
Un bum, un vrai bum. Ben oui, j'avais les cheveux bleus en plus. Pour j'ai vrai? Eu bleu, orange, un mohawk, tu sais, les deux traces. Sa tête.
Mais voyons donc.
Ouais, j'y ai été, là.
OK, je le savais pas, mais j'ai besoin de voir ces photos-là éventuellement.
J'imagine que oui.
Je viens de me créer un besoin. incroyable. Donc, ça a commencé comme ça. Là, tu commences à écrire des tunes. Mais là, à faire des shows, c'est comme une autre étape. Là. À 11-12 ans, où est-ce qu'on fait des shows à Beauceville?
Ben, c'est ça. Il y avait quand même des occasions. Tu sais, il y avait des petits concours. Fait que là, on était tout le temps les. Tu sais, je m'étais parti un band à l'époque aussi. On s'appelait Réflexion. D'ailleurs, D'ailleurs, mon adresse hotmail, c'est encore PH Réflexion de toutes ces...
Incroyable.
Ouais, ouais. Fait que j'ai gardé ça.
C'est un prog un peu. Ouais. Réflexion.
C'est un peu prog, mais je t'avouerais qu'on était assez folk rock.
Okay.
Moi, j'écoutais beaucoup des Cowboys Fringants. Puis FL 65, là.
I'm blue dabadi dabadi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Un mix des deux.
Quelque part entre FL 65 et les Cowboys Fringants, il y avait réflexion. Incroyable. Fait que donc, c'était joué, j'imagine, dans des conditions pas toujours évidentes, là. Je veux dire, pour avoir grandi en région, je sais, c'est quoi une salle municipale, puis ouais. Une Saint-Jean-Baptiste.
Oui, exact. Mais nous autres, on le savait pas.
Ah, OK.
Fait que, tu sais, pour nous, chaque occasion était comme. C'était malade, là. Tu sais, même si les mônes, des fois, ils sonnaient. T'sais, ça nous explosait dans la tête, mais t'sais, on tripait, t'sais, on comprenait pas, on faisait pas la différence là,
ouais.
On est entre les des geeks brunes puis on était daltoniens là d'expérience.
Tu sais pas vraiment, toi t'es une bonne geek.
C'est ça, on tripait.
Ouais. Nos loges, on est toilettes, mais Chris, on vit le rock.
Puis ça fumait en plus là, dans ce temps-là,
oui.
Là, fait que les premiers shows que j'ai faits. Hey, je sortais de là, là, le mal de gorge.
C'est
je parlais,
sûr.
Je pouvais plus parler pendant deux jours, là.
Aïe, aïe.
Le petit jeune qui a fumé 45 paquets de boucanes secondaires.
Ben
ça,
oui,
quand
t'es... fumé secondaire. Dans tout de suite. Mais oui, c'est rendu là. On est rendu à fumer tertiaire, je pense. C'est comme il y a pas mal de couches de boucanes, effectivement. Là, on est situé où? Début d'année 2000?
Ouais, ça doit être pas mal ça, le ouais. 2002, tu sais. La grosse époque.
Le gros rock de 2002. Mais donc, 18 ans, je calcule vite, ça veut dire que tu as fait ton cégep en Beauce ou tu es sorti vraiment?
Oui, ben en fait, moi, j'ai commencé le cégep en art plastique.
OK.
Fait que j'ai fait une session qui était limite catastrophique, là. Quand
okay.
même, là, on va le dire. J'avais 17 ans. Puis après, ben j'ai fait les auditions de Star Academy dans le temps avec mes tunes.
Ouais.
J'avais été sélectionné avec mes chansons, fait que j'avais fait la demi-finale, j'avais passé, puis je m'étais rendu à la finale. Le premier gala, en fait, qui choisissait, il en avait sélectionné 20, puis en choisissait 14 là-dedans. Puis ont décidé de m'éliminer à partir de là.
Ouais, ça c'est quand même assez hallucinant. Faut quand même faire une parenthèse par Académie Pierre-Hervé parce
peut.
Que malgré que le fait que c'est pas nécessairement l'affaire dont on parle le plus aujourd'hui, à l'époque la Beauce était en liesse là, je veux dire que le petit gars de Beauceville soit à télévision, à Star Academy, je pense que c'est la deuxième ou la troisième édition, on était dans les débuts.
Ouais,
là,
je pense
pas.
Que c'était la troisième. Ouais.
Ouais.
Oui, c'était 2009. Fait que
c'était encore un peu edgy.
C'était quand même encore un peu edgy, puis vraiment le j'avais le soutien des gens, là, c'était cool. C'est sûr que bon, y en a tout le temps. Tu sais, je me faisais lâcher des calls des fois par les fenêtres là, mais
ouais, non,
mais
là...
la majorité les gens étaient derrière moi.
Ouais.
Pis, ouais.
Mais de le faire avec tes chansons aussi, parce que c'est quand même digne de mention. La plupart des gens à Star Academy qui ont essayé de faire les auditions chantent I Will Always Love You, Evangeline, on y va avec
oui,
les classiques.
Oui, mais ça se faisait pas tant. T'sais, c'était déconseillé aussi, et il me l'avait dit, il m'avait déconseillé de faire ça. Puis moi, c'est ça que je voulais faire, tu sais. Fait que j'ai peut-être pas cadré exactement dans ce que c'était, puis c'est bien correct, tu sais. Puis après, ben on est suivi la voie, puis là, il y a plein de gens qui se sont inscrits à ça, mais c'est sûr que Star Academy 2009, là, c'était plus intense, je pense, aussi. Ils te mettaient dans une maison avec les caméras.
Ouais.
Hey, moi, à cet âge-là, là, la maison, les caméras, je sais pas ce que ça aurait donné.
Mais c'est ça
que
j'allais dire. Est-ce que tu t'es imaginé un univers parallèle où Pierre-Hervé Goulet aurait passé? T'sais, il l'aurait eu ce soir-là au gala puis il aurait fait toute l'académie.
Hey, je sais pas ce que ça aurait donné. Ben, peut-être que ça. Je serais devenu vraiment, vraiment, tu sais, hautain. Puis à 25 ans, j'aurais sombré dans la drogue sévère. Puis là, après, je serais devenu comme une parodie de moi-même qui essaye de renaître. C'est sûr que belle vie quand
t'aurais
même.
T'aurais fait des albums de Noël, en fait, sûrement plusieurs.
Ouais, là, j'en serais à mon sixième,
exact.
Peut-être. Puis là, hey, vive le vent, là, je la chante, puis je suis comme, OK, là, faut que je paye mon loyer. Let's go, là.
Ah, là, mais ce refus-là, je pense, t'as peut-être motivé à continuer, puis à continuer de tenir ton bout sur le fait de faire tes compositions.
Oui, 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 définitivement.
Parce que ça t'a quand même réussi d'un sens, même si t'es allé à contre-courant de tout ce qu'on te recommandait à l'époque. Et ça t'as... Donc, Monet, tu l'as mentionné brièvement aussi, aller à l'école de la chanson de Grimbé.
Ouais.
Ça, pour les gens qui ne connaissent pas, ça porte très bien son nom. Ça se passe à Grimbé.
C'est une école
qui enseigne à la chanson. Mais en fait, c'est une des seules écoles reconnues, même là, où est-ce que tu peux apprendre les bases de la chanson.
Ouais.
Dans une formule, je vais dire, assez classique pour connaître quand même les enseignants qui sont là-bas, puis qui, ben, y en a plusieurs, puis ça change au fil des années, mais on y apprend comment fabriquer, comment ça s'enseigne, Pierre-Hervé, de faire de la musique ou de créer. On dirait que c'est quelque chose qui est difficile à concevoir.
Ben, c'est une bonne question, puis c'est une question que je me pose beaucoup, parce que ce moment, je me suis parti à un programme d'enseignement de la chanson que j'essaye de développer progressivement. Fait que c'est sûr que à force de lire là-dessus, d'essayer aussi de cumuler tout ce qu'on m'a enseigné puis ce que j'ai appris au fil du temps, tu sais, c'est clair qu'il y a une partie qui s'apprend puis il y a une partie qui s'apprend pas, tu sais. Mm. La partie qui s'apprend pas, c'est toi, tu sais, c'est qui que t'es. Puis ça, faut que tu le découvres. Fait que bon, il y a comme c'est ça qui est le fun, c'est que autant que t'apprends des outils, qu'autant qu'il y a de l'instinct, qu'il faut que t'écoutes, puis autant il y a du cheminement personnel aussi que t'es un peu ta propre encre là où tu trempes la plume. Puis après d'apprendre à des techniques de plume, ça il y en a plein, puis c'est le fun, mm-hmm. puis il y en a beaucoup. T'sais.
Fait que c'est un peu ça qu'ils enseignent à Grimbé, c'est comment construire une chanson, la dimension de la forme.
Oui, c'est ça, la forme, puis aussi l'histoire de la chanson. Fait que là, tu sais, on a passé à travers de la Bolduc à Robert Charlebois.
Oui, hein?
Oh, ils ont fait un grand éventail là, de l'histoire de la chanson, puis des cours de gestion de carrière aussi.
Ah ouais.
C'est sûr que moi, j'avais 19 ans, je m'habillais avec des chemises indiennes, jouais du sitar, j'avais les yeux mauves. Ça m'a amené la gestion de carrière. Je gérais pas grand-chose à ce temps-là. Disons que si je revenais à l'âge que j'ai, probablement que j'apprendrais des affaires que je suis encore en train d'apprendre aujourd'hui.
Oui, mais tu saisis la pertinence de ce que ça était à l'époque, finalement, d'apprendre à gérer sa carrière.
Ouais.
Mais bon, écoute, chacun ses rites de passage. On
exactement.
Va dire ça comme ça. Mais donc, quand même. Puis Grimbé, je veux dire, il y a le festival de la chanson de Grimbé aussi, qui est un énorme festival avec beaucoup d'histoires. Il y en a plein d'autres comme ça. On va parler justement du circuit des festivals de chansons, du circuit des concours, de tout ça. Qu'est-ce que ça peut amener? Parce qu'à un moment donné, quand tu te mets à apprendre à faire des chansons, ben on en fait, puis il y a beaucoup d'options par où passer pour faire parvenir ces chansons-là aux oreilles des gens. Et c'est bien souvent là que les chemins ou les opinions là-dessus vont différer dans les artistes qui commencent en chanson. Fait qu'on va en jaser tout à l'heure, mais là, je me suis dit qu'il y a peut-être des gens qui ont jamais entendu tes chansons, qui savent pas de quoi on parle depuis tantôt. Donc, on a ici ta première composition sur le Petit Cheval.
Oh,
En
sur
primaire,
iTunes,
exact.
5$ sur
on a
iTunes.
Retrouvé ça, j'ai soudoyé ta maman qui l'avait enregistré à ton On a pris la VHS.
À mon insulte.
On a tout transféré ça. Et finalement, c'est ressorti à l'autre bout comme une chanson qui s'appelle Bonnie et qui se retrouve sur
ton
dernier album. On a même ajouté des petits arrangements de trompettes à travers.
Ah, donc, c'est le fun.
La magie de la radio. C'est donc Pierre-Hervé Goulet qu'on va aller entendre avec Bonnie. On vous revient à Écoute Locale, les entrevues pour continuer ce 60 minutes en bonne compagnie avec Pierre-Hervé Goulet.
Je ressens le temps me creuser le visage. Un an de plus, mon cœur ne se bat plus comme il s'est déjà battu. J'étais parti pour t'aimer, j'en reviens certain de mon propre reflet encore. J'ai confondu tes pommes et mes poires encore. Bonnie, t'es parti sans me dire. Sur mon île, j'avais trouvé la paix d'abord, et puis t'es remonté à bord encore.
chanson tirée du dernier album de Pierre-Hervé Goulet que j'aime énormément, l'album et la chanson. C'était le premier extrait, si je me souviens bien.
Ouais, mais il semble qu'on a commencé. Non, deuxième. Ouais, le premier, c'était Les oiseaux du matin.
Oui.
Dans une période où je voyais, tu sais, j'étais tout le temps un peu sur la route, parti en voyage ici et là. Puis à toutes les fois, je me réveillais dans cette période-là. Je savais plus où j'étais. Parce que j'étais jamais à la même place. Ouais. Fait qu'il y avait un genre de petit moment de panique, de « voyons que je suis », tu sais.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que ça a comme été un élément déclencheur de cet album-là qui, ouais. que j'ai écrit en marchant.
T'sais. L'élément, oui, c'est vrai, t'en parles beaucoup d'ailleurs dans les paroles des chansons
oui,
de
ouais,
l'album,
ouais.
de marcher.
Oui, puis c'est un processus d'écriture que j'ai trouvé vraiment fascinant dans le temps que je l'ai fait. Tu sais, j'étais au bout de ça.
Okay.
Fait que le but, c'était de pas écrire un mot. Tu sais, c'était vraiment de les marcher puis de l'écrire dans ma tête puis une fois que c'était puis de l'enregistrer puis fait que ça a pas été je me suis assis avec un crayon. Je trouvais ça intéressant.
Ouais.
Bref, on se divertit comme on peut.
On explore quand même, mais c'est le fun. On pourra reparler de technique d'écriture puis de manière de se relancer soi-même aussi pour combattre le sempiternel syndrome de la page blanche. Voilà. 13h22, on est toujours avec Pierre-Hervé Goulet en studio et on jase musique. Beaucoup de musique, beaucoup d'écriture, évidemment. Ça fait beaucoup partie, je pense, de ce qui t'a peut-être défini de prime abord comme un écrivain de chansons, un écrivain de textes. Est-ce que toi, comment tu te perçois là-dedans? Est-ce que tu es un gars qui est plus texte, qui est plus musique? Lequel te passionne le plus, entre guillemets? As-tu des phases où est-ce que tu fais « Ah, j'écris vraiment beaucoup », puis d'autres où est-ce que tu fais « Ah non, là, de ce temps-ci, j'ai des tunes dans la tête, j'ai des mélodies dans la tête ». T'es quel genre de compositeur?
C'est une bonne question que genre je pourrais aller dans 15 chemins différents. Ouais. Mais moi c'est sûr que les textes de chansons c'est ce qui fait que je connecte avec un artiste que j'écoute en premier. Mais des fois quand la musique prend beaucoup de place puis que les textes sont justes, que les mots sont bien placés dessus, ça va venir autant me chercher de dire une phrase super simple comme « je suis libre », tu sais, mettons, mais qu'elle soit tellement bien placée sur de la musique que tu viens la remplir d'un meaning ou d'un sens. Tu sais, fait que je trouve que ces deux affaires-là, autant que Richard Desjardins, quand il te pousse une chanson grandiose, là, t'es comme « wow », tu sais, voyons, les Yankees, tu sais, t'es là, ben là, c'est de la littérature, là, tu sais, c'est une histoire.
Exact.
Fait que les deux me font triper, tu sais. Moi, j'étais un grand fan d'Angèle aussi, j'aime beaucoup, beaucoup. Angèle Stromae, qui sont pratiquement
des icônes belges.
Oui, oui, oui. Fait que je dois être belge à quelque part. Tu sais, la Beauce, c'est la Belgique de la France.
Ah, la Beauce, c'est la Belgique du Québec. Ah, c'est bon, j'adore ça.
La Beauce, c'est la Belgique de l'Europe.
C'est ça.
Attends, tu peux, c'est ça? Ouais.
Okay. On va y reparler.
Oui, on va refaire ça. Mais oui, fait que moi, c'est sûr que les textes, pour moi, sans prétendre que... tu sais, que c'est nécessairement de la tu sais, parce que je fais de l'écriture de chansons, tu sais, je suis pas un poète, tu sais, je fais pas de la poésie. Mais dans la chanson, pour moi, il y a des éléments poétiques, il y a des choses que j'aime. Tu sais, je sais pas, j'ai une connexion qui me fait triper avec les mots puis en mettant de la musique dessus qui devient un peu. T'sais, spirituel à quelque part.
Ouais. Ben, en fait, quand on écoute n'importe laquelle des chansons, on se rend compte qu'il y a quand même une passion puis un intérêt pour les tournures de phrases, les métaphores, les jeux de mots, allitérations et autres figures de style, tu sais, avec lesquelles tu t'amuses énormément. Et bon, entre autres, ces textes-là, ces premiers textes-là, qui t'a amené à aller cogner à différentes portes au niveau du circuit des concours. Là, j'y vais au sens large parce que des concours, je veux dire, Star Academy, c'en était un concours.
Oui, ben, j'ai commencé jeune dans les concours.
T'as commencé big aussi, quand même.
J'ai commencé avec le plus gros.
C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite de ce côté-là?
Ben, tu sais, moi, déjà, avant Star Academy, j'en avais fait. T'sais, j'ai fait le Téléthon Opération Enfant Soleil. Tu sais, j'avais fait secondaire en spectacle. Tu sais, je pense que, tu sais, c'est sûr que à l'adolescence, je conseille secondaire en spectacle à tout le monde parce que là, tu fais tes premières armes, tu essayes des affaires.
T'es même pas tuné, c'est pas grave.
Tu y vas, puis c'est honnête. Tu sais, je suis juge à chaque année. D'ailleurs, je le suis encore cette année. Je suis juge aussi à Cégep en spectacle. Je l'ai fait deux fois en fin de semaine passée. Puis, Je trouve tellement que c'est une... Tu sais, c'est important, puis j'aime ça m'impliquer à ce niveau-là. Fait que les concours, j'y crois. Je pense que c'est une... C'est pas un passage obligé, évidemment, tu sais. Mais c'est une belle façon de rencontrer du monde, de se rencontrer soi-même aussi sur un stage, de voir ce qu'on veut faire. Tu te fais des connaissances que tu revois. Moi, il y a plein de monde dans des concours que je revois, puis que je vais boire des bières avec eux autres encore aujourd'hui. Mais c'est ça, justement, à un moment donné, gros concours sur Académie. Fait que là, tu sors de là, tout le monde tu sais un peu t'es qui.
Ouais.
En tout cas, du moins ou en Beauce, tu sais, dans ton patelin.
Le monde savent que t'as essayé fort, puis que t'es rendu quand même quelque part.
Oui, oui. Puis là, le monde vient de te donner des conseils.
Oh! Wow!
Mais, tu sais, écoute, ça fait quand même un bout. Fait que là, après, moi, j'ai continué à faire des concours un peu éparses, là. Tu sais, il y en a que c'est une année qui sont
ils font toutes, sont pris
partout. Moi, tu sais, mon chemin est un petit peu chaotique quand même, là. Tu sais, on parlait de contre-courant tantôt.
Ouais.
C'est quand même quelque chose que je connais, autant dans le style de musique que je fais que le parcours qui est un peu, je dirais pas atypique, là, parce que je veux pas nommer une marque de bière sans alcool qui vient de sortir qui a l'air super bonne. Mais je veux pas plugger des produits.
Non, mais t'es allé instinctivement aussi.
Oui,
t'avais
ben
pas
j'ai...
un plan avec, OK, là, moi, cette année-là, je fais ça, cette année-là, je fais ça.
Zéro plan, zéro connaissance de rien du tout. Vient pas d'un milieu de ça. Fait que tout ce que j'ai, je l'ai fait en faisant sur une roche, tu sais.
Oui.
Puis en faisant une sculpture là-dessus.
Oui. Et c'est un petit peu dans l'image de... C'est un peu rough, c'est imparfait, mais ça va donner ce que ça donnera en bout de ligne, puis on fait notre mieux avec ça.
C'est ça.
Nous, on s'est rencontrés à Petite-Vallée, entre autres.
Oui, oui, ça fait longtemps.
Oui, je sais, là, voilà, on a élevé Cochon ensemble.
Ils sont tous morts, ces cochons-là.
Et voilà, on n'a pas fait une très bonne job. mais non, t'as fait de la formation aussi. Puis je pense que t'es quelqu'un qui aime beaucoup, en tout cas qui aimait beaucoup dans cette période-là, aller chercher les connaissances, essayer de parfaire ta manière d'écrire. À Grimby, à Petite-Vallée, c'était aussi ça, c'était une espèce de camp d'écriture avec sensiblement les mêmes profs qu'à Grimby, mais tu sais, dans une expérience où est-ce que tu rencontres d'autres gens qui écrivent, ou vous partagez un peu ces connaissances-là, ces techniques-là, puis donc de se confronter aussi à d'autres gens, puis de te mettre dans des situations où tu as tendance peut-être à te comparer aux autres, tout ça. Ça aussi, c'est une étape de processus qui a sans doute été important dans la manière que tu écris aujourd'hui.
Oui. Puis, tu sais, moi, j'aime ça savoir, tu sais. Fait que c'est sûr que si quelqu'un vient parler... puis qui parle de puis j'ai l'impression qu'il sait quelque chose que j'aimerais savoir, ben ça me titille le fond de l'œil là.
Fait que
c'est sûr que la connaissance de la chanson, pour moi, ça me fascine. Je vois des gens que on dirait que c'est peut-être moi aussi qui leur accorde une importance plus que
ouais.
Tu sais, ça après on pourrait relativiser, mais je trouve ça intéressant, les visions des autres. Ensuite, à l'âge que j'avais, à 15 ans, tu sais, je pense que c'était ça le camp chanson, c'est sûr que là, la vision des autres, tu sais, à un moment donné, oui, mais c'était aussi de commencer à faire mes premières armes, à montrer ce que je fais, à essayer de rencontrer les gens de l'industrie qui pouvaient me donner un coup de pouce, tu sais. Puis en même temps, d'apprendre, de perfectionner, c'est sûr, mais tu sais, j'ai commencé quand même tôt avec peu de sagesse là-dedans.
Mm-hmm.
C'était très, comme on parlait, très instinctif.
Ouais. Est-ce que tu as trouvé ça rough à un certain moment de justement te confronter à du monde qui vont dire qu'ils aiment pas ce que tu fais ou que t'es trop ci, que t'es trop ça, qui te donnent des critiques avec lesquelles t'es pas nécessairement d'accord, d'arriver devant des jurys, par exemple, puis de pas être pris, d'être recalé, tout ça. À un moment donné, à force d'accumulation, il y a beaucoup de gens qui disent « Hey, j'étais motivé au début, mais là, ça fait 8 concours que je perds, je sais plus quoi faire avec ça. »
Je comprends. Et c'est quelque chose de réel, tu sais, puis moi, je le dis, même quand je suis juge dans des concours, je le dis aux participants, participantes, c'est un concours de circonstances. Tu sais, on est des humains, on est des artistes avant tout qui font la même chose que vous autres, puis on a des goûts, puis ça veut pas dire que quelqu'un qui gagne va gagner au fil du temps le plus... Tu sais, fait que... Tu sais, j'essaie de relativiser ça, mais écoute, je me suis un peu perdu dans ce que je voulais dire.
Est-ce
oui,
que ça t'est arrivé, ça, toi, à un moment donné, de sentir insécurisé par ta carrière, ton début? Tu sais, comme tu y vas un petit peu instinctivement, mais as-tu eu un moment où tu t'es dit « Hey, peut-être que finalement, c'est pas correct.
Je comprends, je comprends. C'est fou parce que moi, quand j'étais jeune, tu sais, le doute, je connaissais pas tant.
Ah oui.
J'avais une tête. Tu sais, on disait qu'on élevait les cochons ensemble, là, mais j'avais une tête de cochon. fait que ça, moi, je pense aidé parce que. Puis aussi, faut dire que les concours, les juges en général ont été gentils avec moi. Mm. Tu sais, même si je gagnais pas, ils trouvaient quand même tout le temps quelque chose pour faire bon, ok. Tu sais, puis. Puis anyway, pour moi, c'était plus fort que moi de vouloir faire ça. Fait que j'aurais pas pu arrêter. Mais j'ai une belle anecdote du pire commentaire qu'un juge m'a dit, par exemple. Que ouais. Ça tente que je te le partage.
Absolument.
Ça peut en encourager quelques-uns, quelques-unes qui ont déjà reçu des commentaires incroyables. À un moment donné, je fais un concours, je nommerai pas lequel. Là. Puis un des juges vient me voir après. Puis il me dit, écoute, tu parlais, c'était intéressant, tu racontais une histoire, là, j'étais captivé parce que tu disais, je te trouvais drôle, c'était bon, puis là, tu parlais, puis là, j'étais dedans. Puis quand t'as commencé à chanter, j'ai été déçu.
Oh non!
Ouais, oh il m'a non. dit ça. Puis ensuite, il m'a dit, tiens, voilà ma carte, je donne des cours de chant, tu m'appelleras. Puis moi, ben. Devant ça, j'ai explosé de rire.
Oh non, hein.
Parce que j'étais comme, wow! Tu sais, une chance que tu dis ça à quelqu'un qui a une tête de cochon, ouais. Là, parce que tu peux briser du monde, ben oui. À dire des affaires de même.
Ben oui, il fallait que tu croies un minimum en ce que tu faisais pour pouvoir, toi, confronter le gars pour faire, voyons, c'est n'importe quoi ce que t'es en train de dire.
Oui, c'est ça.
Tu veux rien que plugger ton cours de chant.
Ouais, puis c'est très personnel, tu sais. Oui. Fait que, écoute, peut-être là, que c'était pas incroyable ce que j'ai fait, mais. Le commentaire que cette personne-là m'a dit était quand même incroyable.
Fou raide. Hey, on va aller en petite pause musicale et publicitaire, puis on va jaser guitare après ça. On va jaser de ton premier album aussi, que j'attendais depuis très longtemps. On se souvient que, puisque j'avais entendu tes chansons pendant très longtemps, j'attendais un album, là, puis quand il est sorti, on vous saurait après la pause ce qui s'est passé!
Hey!
Voilà! Le petit teaser. Donc, on vous revient avec la deuxième partie d'Écoute locale, les entrevues en direct sur les ondes de Chiz 80. 14-3.
On survit, on esquive les coups de matraque jusqu'à temps qu'on soit écho. Plongeon de monstre ou black, hey yo! Appelle-moi la Lyonne, c'est chaud!
Écoute locale avec Chiz 94-3.
L'art des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussions, analyses, invités, interviews et défis de la semaine.
Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Chiz 94.3 avec Cédric.
Et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice.
Les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Ah, écoute, local, les entrevues, on passe 60 minutes avec l'auteur, compositeur, interprète Pierre-Hervé Goulet. Et parmi ses inspirations, on retrouve un grand classique de la chanson française et j'ai nommé Georges Brassens. On va entendre la mauvaise herbe de Georges Brassens sur les ondes de Chiz.
Quand le jour de gloire est arrivé, comme tous les autres étaient crevés, moi seul connu le déshonneur de ne pas être mort au champ d'honneur. Je suis la mauvaise herbe, braves gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. La mort faucha les autres, braves gens, et me fit grâce à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. La fille à tout le monde à bon cœur. Elle me donne au petit bonheur les petits bouts de sa peau bien cachés que les autres n'ont pas touché. Je suis de la mauvaise herbe, brave Jean, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Elle se vante aux autres, brave Jean, elle se donne à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Les hommes sont faits, nous dit-on, pour vivre en bande comme les moutons. Moi je vis seul et c'est pas demain que je suivrai leur droit chemin. Je suis la mauvaise herbe, brave Jean, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Je suis la mauvaise herbe, brave Jean, je pousse en liberté dans les jardins mal fréquentés. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu.
La mauvaise herbe de Georges Brassens sur les ondes de Schiste 94.3. Pourquoi est-ce qu'on vous parle du Georges Brassens? C'est parce qu'on est avec Pierre-Hervé Goulet en studio. Tu disais, en dehors des ondes, Pierre-Hervé, je te stoule, que Georges Brassens, c'est le premier punk.
Oui, pourquoi de la chanson. Oui, ben en fait, pourquoi je dis ça? Ben je pense qu'il l'a prouvé à multiples reprises. C'est que il osait dire des choses que le monde voulait pas entendre. Mmh. Puis ça en allait sur une scène. Puis tu sais, il y a des chansons, tu sais, qui... Tu sais, justement, le gorille, tu sais, c'est genre ce qu'il dit, c'est quand même assez malade, là. Je vais vous laisser découvrir la fin. Mais oui, tu sais, puis c'est un anarchiste, puis il se cachait pas de ça, puis il osait déranger, tu sais, puis c'était pas quelque chose qu'on voyait, je pense, dans ces années-là, dans cette époque-là, qui était très conventionnel, convenu. Mais lui, il arrivait, puis tu sais, il montait sur scène avec sa grosse moustache, sa guide, puis là, il chantait des trucs, puis il se faisait rire lui-même, puis le monde riait, tu sais, fait que, tu sais, c'était quasiment un humoriste en même temps.
Ouais, t'sais. Ben il racontait des trucs, il punchait aussi avec ses textes, puis tout ça, la guitare classique, tout le monde, hein? Là, oui, on redorait la guitare classique.
Puis très jazz, manouche, très influencé par le jazz, ses progressions harmoniques, ils ont l'air simples, mais c'est... super complexe. N'importe quel musicien qui est musicien...
qui a une bonne base, là, ouais.
C'est ça, va confirmer que c'est vraiment pas évident de jouer ça.
Ah, incroyable. Mmh. Ben, parlant de jouer ça, Pierre-Hervé, as-tu déjà, justement, fait des covers de Georges Brassens, de d'autres artistes que t'as aimé ou que, tu sais, en apprenant de la guitare, souvent, on passe par là, hein? Faut bien apprendre des chansons. Je sais que tu n'as composé une avant même de savoir la jouer, mais...
oui, avant même de savoir parler.
Ouais, exact. Mais, ouais, est-ce que t'as eu cette avenue-là de repiquer des tunes puis de faire des covers?
Ben j'ai fait des covers de Georges Brassens. Je faisais L'Orage. Je l'ai fait quelques fois. C'est une chanson qui est une de mes préférées de Georges Brassens, L'Orage. Puis qui est pas dans l'humour, hein, parce que moi j'aime quand il est drôle, mais sa sensibilité, pour moi, c'est encore plus intéressant. Mais disons que c'est moins edgy, là, c'est plus dans les belles tu sais, c'est assez, c'est fou raide, là, fait que je conseille ça à tout le monde. Moi, j'ai pas passé beaucoup par l'avenue de t'apprends à écrire en repiquant les chansons des autres, mais je sais que c'est une avenue qui est très prolifique pour plein de monde, parce que t'apprends des suites d'accords, t'apprends ce que t'aimes, fait que je pense que c'est conseillable de faire ça. Mais moi, aussitôt que j'ai appris deux accords, je voulais écrire des tunes.
Tu t'en fous des autres, là, tu sais, tu fais tes
affaires. Puis j'ai écrit au-dessus de 500 chansons dans ma vie, tu sais, fait que j'ai fait que ça, écrire des bonnes et mauvaises. Hein,
pas le temps
d'apprendre
Stairway to Heaven, le gars. Là. Il a écrit 500 chansons.
D'ailleurs, c'est drôle parce que Stairway to Heaven, je l'ai appris juste la moitié dans un cours de musique. Que le prof disait, bon, mais gars, on montait ça comme chanson de fin d'année. Puis on s'était juste rendu à ta-na-na, ta-na-na, ta-ta. Là, on finit ta.
Le gros punch, le slow arrivera jamais.
Le prof nous regarde puis il dit, OK, juste ça.
Tu sais, genre, vous êtes juste rendu là. C'est ça que vous avez fait toute l'année, là. Oh my God.
Ouais, ouais. Mais on l'a maudit l'intro. Tweet.
Oui, oui, oui. Fait que j'ai fait quelques tweet. Mais disons que j'ai plus écrit des tunes.
Ouais. Donc, t'as appris un petit peu par là. Puis j'imagine aussi au contact de d'autres musiciens. Parce que, bon, vient un moment où est-ce que, oui, t'es pas mal été toujours un peu solo. C'est-à-dire que tu fais ton petit bonhomme de chemin, t'écris des tunes, tu les fais solo. Mais là, à un moment donné, ça prenait un album. Puis c'est là qu'on se croisait dans des concours, justement, tu sais. Ma ligne du temps est peut-être un petit peu imparfaite, mais tu sais, il y a eu le cabaret festif à Baie-Saint-Paul. Tu sais, il y en a eu une couple ici et là, même des petits concours locaux à Québec. Puis j'étais comme, PH, quand est-ce que tu sors un album? Parce que là, moi, ça me démangeait comme fan de musique, parce que j'entendais tes chansons seulement quand je pouvais te voir sur scène, puis j'avais aucune option pour les réécouter après.
T'sais. Mais c'était ça, mon... c'est drôle, parce que je pense à cette époque-là, c'était ça mon mindset aussi, tu sais, je faisais vivre mes chansons sur la scène, puis pour moi, c'était ça.
Ouais.
Tu sais, fait que je suis vraiment comme... On parlait de plan, tout ça, là. Tu sais, disons que j'étais pas le meilleur gérant pour moi-même.
Côté marketing et argent, c'est sûr que à l'époque, on vendait encore des albums, là. Ça arrivait encore au début des années 2010.
Oui, c'est ça. Il en vendait encore, puis moi, j'ai pas profité de cet aidant-là, évidemment.
T'as perdu la fenêtre. Mais non, sans, je pense à une chanson, entre autres, qui s'appelait Lila. Ouais. Pour moi, c'était un bon petit hit. Il y avait un petit hook, il y avait un jeu de mots intéressant. Puis je voulais tellement pouvoir écouter cette chanson-là que la journée que tu as sorti l'album, pour vrai, ça n'avait pas été dessus. Je pense que j'aurais réglé des comptes. Là, je serais arrivée chez vous avec une brique fanale. Mais non, mais sans blague, j'étais contente quand tu as finalement sorti un album. Mais tu as pris le temps de vraiment avoir des chansons en gestation. Tu avais beaucoup de chansons desquelles choisir aussi. J'imagine que ça joue énormément dans la décision de dire, OK, là, pour une première fois, je fais un album. Qu'est-ce qu'il va avoir dessus?
Oui, c'est ça. Hey, c'est fou parce que, tu sais, j'ai toute une passe prog aussi, hein, que je mettais 60 accords dans mes tunes, puis que là, ça brassait les mots, les images, les jeux de mots non-stop. Et ça, rien quasiment est enregistré de cette période-là qui était beaucoup plus ludique, beaucoup plus dans les concepts de chansons, les chants lexicaux à pu finir, okay, de métaphores ou de proverbes réinventés, tu sais. Fait que c'était vraiment un jeu que j'aimais, mais j'aurais dû le sortir dans le temps que je tripais là-dessus. Parce que là, me relancer là-dedans, c'est plus, mettons, ce qui m'interpelle.
Ouais. Ouais.
Fait que j'y vais un peu avec qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que j'ai à proposer là? Puis des fois, sûr que je replonge dans certains riffs que j'ai déjà laissés en cours de route, tu sais, que peut-être que je pourrais faire ça, tu sais, puis que, tu sais, je garde mes retailles de tunes, mais j'écris beaucoup. Fait que j'ai pas besoin nécessairement d'aller utiliser mes retailles.
Ouais, c'est ça. C'est des fois, il peut y avoir des échos de peut-être vieilles chansons qui sont passées à la trappe, mais qui te sont restées puis qui vont devenir, de toute manière, ils vont faire leur chemin vers une chanson éventuellement. Mmh. Qui sait? Mais donc, c'est le premier album avec lequel là, tu t'es mis à faire de la tournée. Puis là, bon, il y a aussi cette idée d'avoir un band.
Ouais.
À un moment donné, qui est toujours, tu peux faire de la tournée tout seul en masse, mais vient un temps où tu dis, bon, j'ai le goût de m'entourer de musiciens, d'un band, de tournée. Ça t'avait rencontré quand même pas mal de monde aussi, là, de partir en tournée avec tes musiciens. Je sais même plus, c'était qui ton premier band?
Mon premier band, c'est un super band, en fait. J'ai vraiment commencé avec... Puis j'en ai eu... C'est ça qui arrive, là. C'est que j'ai quand même eu pas mal de formules. Mais mettons, la formule du premier album, c'était avec Guillaume Tondreau à la basse, Marie-Pierre Bellefeuille au clavier. Il y avait Richard Sanson, qui était mon ancien gérant de l'époque, au drum. Puis il y avait Guillaume Méthode à la guitare électrique.
Oh wow!
Fait que tu sais, c'était quand même un super band.
Ouais, ouais,
quand
ouais.
Même. Fait que disons que j'ai appris... j'ai appris avec des excellents musiciens qui avaient beaucoup d'expérience. Puis moi, pas que je commençais à faire ça, j'avais tout un peu fait ça. Fait que, tu sais, j'avais mon genre d'expérience, mais disons qu'il était prêt puis ça sonnait béton. Tu sais, j'étais content de jouer avec eux.
T'es bien appuyé.
Ouais, vraiment.
Pour ce premier élan-là. Il y a eu deux autres albums. Évidemment, on pourra pas passer en revue tout ce qui s'est passé, toutes ces semaines de sortie d'albums et tout ça, mais ça t'a amené quand même à sortir ton tout dernier dans un beau lancement pandémique, etc., etc. Mais tu sais, je pense qu'il y a encore beaucoup de vie à avoir sur ce disque-là. Il y a encore beaucoup de résonance. Il passe encore abondamment d'ailleurs sur les ondes de Chiz 94.3. Mais il faut parler tout de même, Pierre-Hervé, de... Bon, on a parlé beaucoup d'écriture de chansons.
Ouais.
On parle beaucoup de ta passion des mots. Et là, récemment, tu as décidé d'en faire un genre de sideline.
Oui, oui, oui. Vraiment, puis j'ai appelé ça « chanson clé ». Puis c'est ça, tu sais, il y a plein de monde qui viennent me voir pour co-écrire ou les aider avec leurs textes. Puis ça a toujours fait partie depuis... Je vais dans les écoles depuis 10 ans maintenant pour donner des conférences musicales, tu sais, puis des cours d'écriture de chansons, tu sais, fait faire des spectacles. Fait que c'était quand même quelque chose que je faisais, mais là, j'avais envie de le concrétiser puis de trouver une façon de le faire aussi. Fait que là, j'ai lancé « Chanson clé », qui est des capsules vidéo, des vidéos que je vais sortir... à chaque semaine, qui vont parler des outils de base, qui montrent un peu comment... en fait, pas nécessairement comment les utiliser, mais pourquoi, tu sais, on les utilise. Fait que c'est vraiment dans le sens des outils. Puis c'était là que je voulais aller, tu sais, parce que tu peux donner un tournevis à quelqu'un puis dire, tiens, un tournevis. Mais si tu y dis, tu sais, si tu peux faire ça avec, ben tu viens ajouter le sens. Fait que pour moi, il était là le jeu... à faire, puis ça va continuer d'évoluer évidemment vers plein d'autres avenues.
Fait que finalement, c'est en donnant des ateliers ici et là sur demande, j'imagine que bon, tu te le fais demander, tu vas OK, je monte un atelier pour cette classe-là, pour ce genre de public-là, pour ce groupe d'âge-là aussi, parce qu'on s'adresse pas, j'imagine, aux gens de la même manière selon leur expérience.
Ouais.
L'atelier à l'ampli, c'est pas le même que dans une école secondaire.
Non, c'est ça.
Il y a un peu de ça. Fait qu'on imagine que tu as réuni un petit peu l'ensemble des ateliers que tu as pu donner pour essayer de synthétiser ça puis de dire, OK, voici un plan de cours.
Oui, oui.
Il fallait que tu t'organises, c'est ça que je veux dire.
Ouais, oui, oui. Puis, tu sais, dans le but aussi de faire du coaching personnalisé, donc je vous montre les outils. Puis après, si ça vous tente qu'on construise quelque chose ensemble, ben je suis là, tu sais. Puis éventuellement aussi un cours, tu sais, qui va être beaucoup plus étoffé, tu sais. Fait que pour moi, c'est vraiment un projet à long terme. Fait que chanson clé pour les gens qui veulent apprendre à écrire des tunes ou qui en écrivent déjà, tu sais. Fait que c'est, je pense que c'est tout le temps bon d'apprendre, mais aussi de réapprendre, tu sais, certaines choses qui peuvent avoir un écho différent au fil du temps, tu sais.
On y parle notamment, non pas de tournevis, mais tu sais, on parle beaucoup des structures de chansons, tu sais, les rimes, les non-rimes, les altérations, les assonances, bref, des petits outils comme ça que toi, à l'exemple, t'as employé dans tes chansons, puis que tu peux aussi, bref, donner des exemples concrets aux gens de voici telle chanson, voici telle forme, vous pouvez faire ça avec ça ou pas.
Ouais.
C'est ça. Donc, c'est un peu dans ces espèces de lignes-là, je pense, que tu veux amener les gens qui écoutent les vidéos.
Oui, c'est ça. Puis en donnant le pourquoi, tu sais, aussi, j'ai l'impression que ça permet d'intégrer plus vite l'outil, parce que les outils, c'est bien beau, là. Mais à un moment donné, il faut qu'ils soient instinctifs, parce qu'il faut qu'ils puissent t'accompagner dans ton flow et non faire OK, je coupe l'élan, puis je m'en vais chercher la drill.
Oui, c'est ça.
Fait que...
Si c'est trop cartésien,
ouais, exactement.
Souvent, ça pète un peu le fun.
Fait que pour moi, il était là le plaisir de faire ça, puis j'essaye de le faire du mieux que je peux. T'sais, évidemment, c'est pas parfait, puis ça commence. T'sais, fait que c'est ça, c'est vraiment un projet que j'investis beaucoup de temps et qui va être rempli de surprises. Cette semaine encore, je vais ajouter un layer à tout ça qui va être super intéressant, je pense, pour les gens qui sont passionnés d'écriture de chansons.
OK, mon Dieu, vous ne devinerez jamais ce qui se passe. Cliquez sur la vidéo pour tout savoir. Puis, non, mais donc, ça s'adresse un petit peu à autant les gens qui font de la musique professionnellement que des gens qui le font par passe-temps, pour le fun, parce qu'il y en a beaucoup des gens qui écrivent des chansons qui sortiront jamais, mais qui le font pour le plaisir.
Oui, et il y en a qui le font pour le plaisir, puis que finalement, 2 ans plus tard, c'est rendu la grosse affaire, tu sais, fait qu'on sait jamais ce qui nous attend. Puis la création, en général, je pense que c'est sain, tu sais, dans la vie. Fait que pour moi, je trippe à faire ça.
Là, comment on fait pour suivre ça? C'est quoi? C'est-tu un cours? Faut s'inscrire? C'est-tu... ça prend, tu sais, un mot de passe secret? Faut-tu...
Non, pour l'instant, c'est gratuit. Okay. C'est sur les réseaux sociaux, chansons clés sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube aussi. Puis je la joue un peu YouTuber. Tu sais, je trouve ça drôle de faire ça. Ça m'amuse.
Setup, là,
Oui, oui, je me suis fait un setup tout. Puis éventuellement, ben ça va s'étoffer. Puis les gens vont vouloir aller beaucoup plus loin. Il va avoir possibilité de faire ça, puis probablement que rendu là, ça va être rendu payant, tu sais.
Oui, c'est ça, là. Suivez-le pendant qu'il est gratis.
Ben, c'est ça, là.
C'est ça, là. C'est maintenant, là. Faites pas comme les autres, là. Puis là, tu danses à la Switch, puis là, tu fais, voyons, on se bat cher, ces masterclass, là. Ben non, là, ils vous offrent ça gratuitement, toute cette expertise dans un petit écran. gros comme ça pour le bénéfice de votre écriture de chanson. Pour le faire pour le fun. Tu sais, moi, tu m'as envoyé une des capsules, puis j'allais regarder au complet, puis j'étais comme, ben oui, on n'y pense pas, mais c'est vrai que c'est le fun. Oui, c'est bien expliqué, puis tu le vulgarises quand même très bien. Donc, je suis d'autant plus surprise que ça soit 100% gratis.
Ouais.
On est au début de ça. Fait que parlez-en, exact. En fait, passez le mot. Je pense que ça peut être une belle manière de se tester soi-même, de se relancer aussi, puis d'amener sa créativité sur d'autres chemins qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement exploré par soi-même.
Puis quand c'est ça qui est le fun aussi, de nommer les choses, des fois qui sont comme, ah ben oui, ça je sais, tu sais, mais le fait de les nommer, d'ajouter le sens, puis de les mettre dans pas une lignée, là, mais une forme de structure ou habituelle, ben, ça vient plus clair, tu sais, fait que de clarifier, de déflouter. La création et sa créativité.
Exact. Ben écoute, on va aller suivre ça assurément. Puis, comme je disais, parlez-en, allez liker la page Facebook. Puis c'est une belle manière de se tenir au courant de ce que Pierre Hervé fait ces fins de semaine. Et à part de ça...
À quel point qu'il n'y a pas d'amis?
Je suis sûre qu'il fait d'autres choses. Non, mais on parle un petit peu aussi de la scène de Québec. Beaucoup à Écoute locale, c'est comme un peu le seul thème que j'ai, la scène locale de la ville de Québec.
OK, c'est pour ça que c'est local.
Local! Oh. Local, comme pas, on est dans un local, c'est certain que physiquement, on est dans un local universitaire. Mais au-delà de ça, on parle d'écouter sa scène locale. Et Dieu sait qu'il y en a du monde.
Belle mission.
Mais oui, belle émission aussi. Et quand j'ai commencé à faire ça, je savais pas à quel moment j'allais avoir fait le tour. Tu sais, bon, des gens qui sont connus, des gens qui le sont moins. Puis là, finalement, je me rends compte que je vais jamais avoir fait le tour. Puis souvent, ben là, plus souvent qu'autrement, ben ça se parle entre soi. J'ai des invités que j'ai déjà reçus qui collaborent avec des invités que j'ai maintenant ou qui le feront dans le futur. Puis on raccorde toute l'histoire ensemble, notamment en recevant Pierre-Emmanuel Beaudoin qui drôme avec tellement de monde, Vincent Gagnon. Même chose, qui ont commencé à collaborer avec Hubert Lenoir grâce à Alex Martel qui les a réunis sur l'album d'Arlène, qui nous raconte toutes ces histoires-là. Vincent Gagnon qui a aussi fait des claviers pour Kid Kuna, qui est mon invité de la semaine prochaine. Tout est dans tout. C'est une belle toile qu'on est en train de tisser tous ensemble. Et toi, mon cher Pierre Hervé, tu as collaboré avec Jérôme Casabon sur une chanson de son dernier album qui s'appelle Le Savoir Aquatique. La chanson s'appelle Piscine. Et mieux que ça, tu incarnes un personnage.
En plus,
là-dedans.
Oui.
Quel est-il?
Le sensei. Oui, puis écoute, c'est un délire. On a tellement ri à faire tout
ça. Parce qu'il y a un clip aussi que vous devez voir absolument.
Ouais. Pour les gens qui veulent nourrir leurs yeux. Mais oui, c'est ça. Fait que, tu sais, Jérôme, tout son album, Le Savoir Aquatique, on l'a coécrit ensemble, à part peut-être quelques chansons, dont Piscine, qui a comme été le moteur un peu de... Mais on avait déjà collaboré sur ces autres trucs, l'allumette, tout ça. Fait que... Puis là, ben, ça a vraiment concrétisé à... OK, on fait ça ensemble pendant le gros de la pandémie. Tu sais, fait que ça nous a un peu divertis.
Tout à fait. Puis la coécriture, c'est quelque chose que tu fais de plus en plus aussi.
Ouais, j'aime ça. J'aime ça participer à la création des autres aussi. Tu sais, ou juste des gens qui viennent me voir pour conseiller au texte. Tu sais, il y a Jean Daud, j'imagine que vous allez peut-être le
recevoir. Qui vient de sortir l'album Club Wagon.
Exactement. Nicolas Gémus, qui est un de mes bons amis. Tu sais, fait que au final, je gravite à travers les univers des autres aussi. Puis ça me fait tout autant triper.
Oui, puis ça donne de très, très bons résultats en plus de ça. Puis j'ai le goût qu'on aille se donner un petit air d'été en écoutant justement la chanson Piscine, où vous pourrez donc entendre le fameux sensei du bord de piscine de Jérôme Casabon.
Teenager, les piscines publiques, je connaissais ça par cœur. J'y allais souvent avec ma mère puis mon père. C'est que c'est comme si c'était hier. Je me souviens encore. J'excellais en nage en crawl. Je donnais des papillons au ventre des baigneuses en battant des ailes dans la barbotte. J'aime ça me pitcher dans piscine, pitcher dans piscine. J'aime ça me pitcher dans piscine. Pour me guérir de mon manque d'attention, je suis devenu le roi du plus haut plongeon. Mais j'ai arrêté de jouer les acrobates depuis que j'ai fait un flat en 2004. J'aime ça me pitcher dans piscine, pitcher dans piscine. J'aime ça me pitcher dans piscine.
J'aime ça me pitcher dans piscine, pitcher dans piscine. J'aime ça me pitcher dans piscine. Perdu confiance après cette tragédie, j'ai niaisé sur le bord pendant un an et demi. Mais ma vie a changé le jour où j'ai rencontré Marco. Marco, Marco, c'était le plus grand, le plus tough. Il ressemblait un peu à David Hasselhoff. Un casque de bain de calibre olympique, une vraie mine d'or du savoir aquatique. Marco avait l'attitude d'un vainqueur, des longueurs d'avance sur les autres moniteurs. Il m'a offert d'être son apprenti, le futur sauveteur du bain libre du midi. J'aime ça me pitcher dans le sim, pitcher dans le sim. Nowadays, j'ai surmonté mes peurs grâce à Marco Polo, mon sensei, mon sauveur. À cette heure, je suis ben zen sur le bord de l'eau, assistant sauveteur de mon héros. J'aime ça, watch it, watch it, watch it, watch it, la piscine, ben zen sur le bord de l'eau. J'aime ça, watch it, la piscine, ben zen sur le bord de l'eau. J'ai surmonté mes peurs grâce à Marco Polo, mon sensei, mon sauveur.
Pitcher dans piscine, quand même très agréable de se pitcher dans piscine avec Jérôme Casabon, une chanson qui était coécrite avec mon invité d'aujourd'hui, Pierre-Hervé Coulet. Pierre-Hervé, c'est presque la fin.
Oh non!
Ça passe si vite.
Ouais, ça passe très vite.
Et on aurait pu parler de 1300 choses. Un moment donné, on se réinvitera autour d'un micro. Mais d'ici là, ben, on suit tes projets quand même. Bon, tes shows, tes cours de chansons clés, tes formations en ligne de chansons clés. Il y a eu les Marianne aussi, il y a un an ou deux, là, qui était comme le projet pop de Boys Band.
Oui.
D'ailleurs, t'étais venu, vous étiez venu tourner une vidéo ici.
Oui, oui, la pire Chine. Entrevue du monde.
Ouais,
ah, c'était
ouais,
drôle.
Hein? Assez magnifique. Puis c'est un projet autour duquel il y a quand même, je pense que vous gardez volontairement beaucoup de mystère parce que, bon, est-ce que c'est sérieux? C'est-tu une joke? C'est-tu pas sérieux? Est-ce que c'est vraiment un Boys Band? Est-ce qu'ils ont laissé leur carrière solo pour faire ça? Tant de questions qui demeurent quand même dans le mystère, mais je pense que pour toi, c'est une belle manière d'exorciser la pop intérieur.
Oui, c'était l'objectif du projet, tu sais, puis que ça l'est encore dans le ouais. qu'on a décidé qui est un great set.
Un great set.
Ouais,
un great set.
Désolé mon accent. Mais oui, c'est ça, tu sais, ça faisait partie de ce qu'on voulait faire, tu sais, puis on voulait bien le faire. Tu sais, ça a toujours été ça. Ça a toujours été un respect envers la pop parce que c'est pas évident, mais là ça nous donnait le véhicule parfait pour le véhicule parfait pour pouvoir pouvoir faire de la pop, ouais. Tu sais, puis de se donner des contraintes puis se dire bon ben go, on essaye de faire comme les Backstreet Boys.
Un exercice de style.
Un exercice de style très difficile, tu sais, fait qu'on a vraiment trippé.
Ouais, mais écoute, dans un avenir prochain, peut-être une tournée de centre d'achat.
Oui, c'était l'objectif.
Moi,
finalement, elle a été annulée.
Ben voilà, tout le monde a annulé sa tournée de centre d'achat. Pourquoi? Parce que les centres d'achat ferment. Voilà.
Ah ouais, ça ferme.
Ça va pas bien pour les centres d'achat. Je pense que la musique pourrait peut-être sauver les centres d'achat.
Peut-être, à fleur de lys, là.
Fleur de lys aurait pas besoin d'un bon boys band.
Oui, ça serait bon.
Voilà. Mais je vais le dire en onde. Je suis allée au Walmart cette semaine de fleur de lys.
OK.
Et Mireille, le premier hit des Marianne, jouait là, à plein régime dans l'allée des brocolis. Donc, faut le faire quand même. Là, je pense qu'il y a une niche au niveau du Walmart.
Ah oui, mais c'est ça, nous autres, puis les Walmart, hein, on est connectés. Mais merci aux gens qui font jouer nos chansons.
Ben
on
oui.
est bien contents. Justement, il y a quelqu'un qui m'a écrit à un moment donné, il me dit « Ah, ça joue à l'épicerie en Gaspésie. » Je pense pense que épicerie, Walmart, partout, il y a de la
c'est
bouffe.
C'est alimentaire.
Ouais, c'est alimentaire.
C'est une job alimentaire. Ouais. Mais donc, on continue de te suivre, Pierre-Hervé. Merci d'avoir passé ces 60 minutes avec nous.
Eh hey, ben merci pour l'invitation, Émilie. Tout le temps
vraiment plaisir. Puis, ben on continue encore une fois là, de suivre des cours d'écriture de chansons avec Chansons Clés, nouveau projet de Pierre-Hervé. C'est gratuit. Allez-y, allez liker toutes les pages. Abonnez-vous et surtout, allez voir sur YouTube. Il y a souvent, chaque semaine, donc des nouvelles
ouais,
vidéos.
À chaque semaine, il va y avoir des vidéos puis qui vont nourrir tous les créateurs, créatrices inspirés ou pas inspirés, hein, parce qu'on je vais éventuellement évoquer la fameuse page blanche, tout ça. Puis même sur TikTok, le pire, c'est que sur TikTok, ben oui, non, je suis rendu partout.
Wow!
Ouais, ouais.
Il défie les générations.
Exactement.
Pierre-Hervé Goulet, merci beaucoup encore.
Ça fait plaisir.
La semaine prochaine, qui sera mon invité? Eh bien, ce sera le seul, l'unique Sylvain Côté, alias Keith Kuna, qui sort très bientôt un nouvel album, qui aura un nouvel extrait et surtout plein d'anecdotes, j'espère très trash, à nous raconter. À Écoute Locale, les entrevues sur les ondes de Chiz 94. Passez une belle fin de journée. Je m'appelle Émilie Rioux. On se voit la semaine prochaine.